RMC. Lae, l'amour et vous, Brigitte Lae.
Bonjour à tous, eh bien j'ai décidé aujourd'hui encore de vous gâter et vous allez entendre les meilleurs moments de Lae, l'amour et vous. Nous écouterons Loïc Roche et on reviendra sur la question des relations intimes sur le lieu de travail. Nous pourrons également écouter et savoir si la baisse de libido est plus liée à un problème hormonal ou psychique. Et on reviendra également sur le sexisme sur le lieu de travail. Mais tout de suite, écoutons le témoignage de Pascal dont la femme lui avait révélé qu'elle avait besoin d'aller voir ailleurs. J'étais avec Michel Oudoul ce jour-là.
RMC, le meilleur de Brigitte Lae.
Pascal, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc vous êtes en couple depuis 10 ans, hein, vous avez 37 ans.
C'est ça, ouais, je suis en couple depuis 10 ans, j'ai un enfant de 4 ans. Mm-hmm. En fait, la situation, ma compagne m'a appris la semaine dernière, elle est suivie par un thérapeute. Et en fait, ça lui a déclenché quelque chose qui la bloquait, elle savait pas quoi. Elle se rend compte qu'elle a besoin d'aller voir d'autres hommes.
Alors moi, je suis quand même surprise. Elle est suivie par un thérapeute, donc elle peut se confier, elle peut réfléchir sur elle-même, et elle trouve rien de mieux que de venir vous raconter ça alors qu'elle est suivie par un thérapeute. C'est quand même curieux.
Alors, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'elle a en elle depuis très longtemps, mais qui était enfoui.
Non, mais d'accord, mais elle se rend compte du mal qu'elle vous fait quand elle vous dit ça ?
Je pense qu'elle s'est rendue compte, oui, à quel point ça m'a rendu dingue, quoi.
Bien sûr, oui.
Que là, du coup, je suis allé voir un médecin, je suis sous antidépresseur, enfin, je vais pas bien du tout.
Non mais je veux dire, ce qui est grave, Pascal, excusez-moi, hein, c'est pas contre votre femme, c'est contre le thérapeute. Il faut quand même que quand on écoute les gens, on ne leur donne pas n'importe quel conseil stupide.
La première des qualités d'un praticien, d'un thérapeute en général, c'est théoriquement la responsabilité.
Non mais après, est-ce que je dis pas que le thérapeute, la personne qui lui fait la thérapie, lui a dit directement de m'en parler. C'est ce qui en est ressorti et du coup, elle a
oui,
ressenti ça.
Bien sûr, Pascal. Mais un thérapeute, il doit bien sûr aider la personne à se découvrir et à s'épanouir, mais pas à n'importe quel prix. On a une responsabilité, en effet, comme le dit Michel Oudoul, quand on est thérapeute. Et là, visiblement, ce thérapeute, il a ouvert la boîte de Pandore en laissant partir le fleuve dans tous les sens.
Je dis thérapeute, mais c'est psychanalyste. Après, moi, je fais pas la différence.
Non, mais on s'en fout. Il peut être sexo, psychanalyste, thérapeute, psychologue ou psychiatre. Le résultat, il est le même. C'est qu'il y a un manque là
professionnalisme, de maîtrise, peut-être même du métier ou des concepts qu'il utilise pour accompagner votre ami. On est là en face de quelque chose qui est malheureusement assez fréquent. Ce sont tous ces gens qui s'instaurent thérapeutes ou qui éventuellement même le sont devenus avec un diplôme officiel et qui ne mesurent pas combien la portée de ce qu'ils sont, puisque quelqu'un qui vient les voir est en fragilité puisqu'il est en souffrance, combien à travers ce qu'ils sont ils deviennent un référent dont le patient a souvent du mal à mettre en cause et en question ou en perspective ce qui lui a été dit. Il y a donc une responsabilité majeure à mesurer les propos. Il y a une responsabilité majeure à conduire la personne à la rencontre de zones qui peuvent être effectivement difficiles et tensionnelles parce que le thérapeute, il voit le patient pendant une heure, mais le reste du temps, le patient rentre chez lui et se retrouve dans un contexte dans lequel ce qui a émergé au cours de la consultation peut créer des dégâts. Mmh. Or, ça n'est pas la finalité.
Alors, toujours est-il que ça fait quand même quelques temps où, enfin, on n'a pas parlé, mais qu'elle commence à douter. Donc après, voilà.
Non, mais Pascal, ce qu'il faut maintenant essayer de voir, parce que là, vous êtes angoissé, parce que vous avez peur de la perdre, vous n'avez pas envie qu'elle aille avec d'autres hommes. Donc tout ça fait mal et ça crée des véritables dommages collatéraux, comme on dit. Donc je pense qu'il va falloir que tous les deux vous preniez le temps de discuter ensemble et de voir où en est votre couple et comment vous repartez ensemble. voilà, parce que elle peut pas à la fois vivre une vie de femme totalement libre qui s'envoie en l'air le matin, le midi et le soir avec n'importe qui, et vivre une relation avec un homme qu'il aime, qui est le père de son enfant, etc. Vous voyez, je veux dire, y a, c'est encore une fois, c'est toujours pareil. Il y a quand il y a engagement, il y a responsabilité. Et il faut qu'elle prenne conscience de ça, et c'est en ça qu'on est un peu en colère contre son thérapeute ou son psychanalyste, on s'en fout, parce qu'au fond, il n'a pas soulevé ce problème-là. Pour l'instant, elle est encore avec vous. Donc elle vient de découvrir qu'elle a des fantasmes de faire l'amour avec d'autres hommes. Bon, maintenant, c'est des fantasmes, c'est pas forcément du passage à l'acte, et c'est pas tellement malin d'aller vous raconter ça de cette manière-là.
Non, mais c'est sûr que après, elle m'a bien dit qu'elle sait pas si elle est capable de passer à l'acte. En tout cas, elle sait qu'elle a le désir, mais elle sait pas si elle serait capable de l'assumer. Voilà. Donc.
Mais oui, mais vous êtes pas capable de l'assumer visiblement, Pascal.
Non.
Bon, et ben il faut lui dire.
Mais en fait, concrètement, on en discute beaucoup. Je pense que. Moi, j'ai besoin de beaucoup de réponses qu'elle m'apporte pas.
Qu'est-ce que vous avez besoin comme réponse, Pascal ?
J'ai besoin de savoir concrètement si elle m'aime vraiment, si elle se voit.
Posez pas la question de l'amour. Posez la question de est-ce qu'elle a envie de continuer avec vous dans les années qui viennent. C'est plutôt cette question-là qu'il faut poser. Parce que quand on pose à une femme la question de l'amour, comme elle confond souvent avec le désir, comme elle confond souvent avec des choses qui sont d'ordre très émotionnel, elles sont perdues quand on leur pose directement cette question-là. Posez-lui la question, est-ce que tu as envie qu'on continue ensemble ?
Ok, et par contre, moi, de mon côté, comment je peux essayer de me reconstruire,
il faut que vous réalisiez ce que ça a signifié pour vous. Ça a été un tsunami, hein, visiblement, on l'entend bien. Pourquoi ça a été un tel tsunami? Parce que visiblement, vous aviez une notion du couple idéal, comme si vous pouviez n'être que le seul être désirable pour votre femme.
C'est complètement ça, oui.
Et oui, c'est pas con, c'est un idéal, on a tous nos idéaux, et puis de temps en temps, la vie nous les secoue un peu, et c'est à ce moment-là qu'il faut en effet travailler dessus et arriver à dépasser ça.
Oui, et non seulement c'est pas complètement idiot, mais c'est au contraire une des réalités de l'être humain, c'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde. Il faut que vous soyez d'abord dans un premier temps capable de dissocier ce qui peut être le fantasme et ce que peut être la réalité. Ça n'est pas parce que quelqu'un à un moment donné peut avoir un fantasme ou une envie, le problème n'est pas là-dedans, il est peut-être dans le fait que ça a été dit à quelqu'un qui n'était pas en capacité de véritablement recevoir l'information. Donc ce sur quoi il faut que vous vous rassuriez, c'est que ce fantasme qui vous a été exprimé dans une optique, c'est que ce soit quelque chose à la limite qui soit partagé dans l'idée et qui soit quelque chose qui puisse être une information qu'elle vous donne pour essayer de construire au contraire quelque chose avec vous. Sinon elle ne vous aurait pas raconté le fantasme, elle serait allée le vivre ailleurs.
Oui.
Mais au-delà de cela, moi, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a d'abord motivé le fait qu'elle aille voir un thérapeute ? C'est-à-dire que déjà, il y avait un malaise qui existait et que c'était déjà peut-être, et c'est peut-être de revenir à la racine de ce malaise-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui avait été vécu dans le couple comme insuffisamment satisfaisant pour avoir envie de fantasmer quelque chose ailleurs ? Pour vous aussi, d'ailleurs, c'est peut-être une excellente opportunité, puisque vous êtes sous antidépresseur, vous disiez suite à ça, ça peut être une excellente opportunité pour aller tous les deux ensemble consulter quelqu'un, mais de préférence dans une technique, une thérapie rapide. 18 ans de thérapie, c'est bien.
Ça va, hein, on avance quand même, normalement.
Hein. Théoriquement.
Merci Pascal et bon courage.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
On va ouvrir cette boîte à questions, Michel Odoul. Est-ce qu'il existe des points dans le dos qu'on pourrait stimuler pour améliorer sa sexualité ou sa libido? Ça existe, Michel Odoul.
Au niveau du dos, il n'y a pas de point spécifique qui soit destiné à ça. C'est l'ensemble des points qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc, dans les phases préliminaires, on peut en profiter pour effectivement aller travailler ces points-là. En revanche, sur le côté face du corps et au niveau des mains, il y a des points effectivement qui peuvent améliorer.
Et alors, où ça? Quels sont ces points?
Il y a par exemple.
Je sais qu'il y en a un dans le pied.
Oui, alors dans le pied, c'est le point du 1 du rein qui est celui qui va redonner, ça s'appelle source jaillissante, c'est un point qui va permettre donc de redonner de la dynamique et de l'énergie. Mais le point, entre guillemets, si j'ose dire, Viagra, se situe au milieu de la paume de la main. C'est un point qu'on trouve en repliant chaque phalange du majeur à 90 degrés. Et le bout du doigt vient tomber un peu, à peu près au centre de la main.
C'est pour ça que parfois il y a des gens qui viennent vous toucher la main comme ça.
Mais ça, c'est alors c'est... ça, c'est, un, c'est une vraie déclaration.
J'ai compris.
C'est le point feu de l'énergie du maître cœur qui gère la sexualité. Donc là, la personne vous dit très clairement qu'elle veut vous allumer le feu.
D'accord. Julien est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Odoul.
Bonjour.
J'ai 33 ans. Je suis en couple depuis 7 ans. Donc j'ai passé les caps des 3 ans. Donc je suis très content. Sauf que je suis passionné par les femmes par rapport à mon passé. Et disons que là j'arrive à un cap où j'ai fait part à mon épouse que j'avais une envie, un manque physique, c'est-à-dire sexuel, pour aller voir ailleurs. Et disons qu'elle a très mal pas. Très mal pris et en fait je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut que je le fasse en toute discrétion ou est-ce que il faut que j'arrête la démarche? Je sais pas en fait.
Mais pourquoi vous lui avez dit ça, Julien?
Parce que en fait ça a rien à voir avec elle. Hein. C'est quelque chose de tout à fait personnel. Et en fait, par période, j'ai des frustrations par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'étais dans le passé. Et disons que, bon, c'est vrai que je me suis marié avec elle, je suis très amoureux d'elle, tout va très bien, mais c'est quelque chose de personnel. Donc moi, je lui en ai parlé sans la faire culpabiliser, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec elle. Et en toute honnêteté aussi, parce que j'ai des valeurs et mon honneur, et donc je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec ma femme, des bonnes choses comme des mauvaises, et là, disons que ça a été le
mais
quoi.
Julien, je crois que vous vous rendez pas compte de ce que vous lui avez dit, parce que au fond, vous êtes en train de dire à votre femme, comme elle aurait pu vous le dire d'ailleurs, écoute, oui, je t'aime, je te désire, mais au fond, je peux désirer et avoir envie d'autres femmes, donc tu n'es pas tout pour moi. On a envie d'être tout pour l'autre, et donc c'est toujours douloureux à entendre, même si on peut le comprendre, bien sûr, mais on n'a pas envie de l'entendre. C'est normal que vous ayez cette réaction, vous êtes un homme, je veux dire, quand je dis vous êtes un homme, il y a des femmes aussi qui ont cette envie à un moment donné de retrouver d'autres corps, de retrouver d'autres êtres, parce que c'est excitant. Bon,
c'est la grande différence entre l'enfant et l'adulte, hein. L'enfant est incapable de retenir la frustration et de ne pas l'exprimer. L'adulte, lui, est théoriquement censé être capable de le faire. Et ce dont vous avez besoin, c'est peut-être de gérer cela. Si vous êtes dans une relation à quelqu'un dans laquelle vous dites que vous aimez l'autre, qu'il est l'être qui compte pour vous, et etc., il y a déjà un sentiment majeur qui doit émerger, qui est le respect. Et le respect, c'est pas choisir les mots qu'on va utiliser, c'est essayer d'identifier ce que l'autre est capable d'entendre et de recevoir. Et vous savez, on est dans des phases, on a parlé des attentats, des armes, etc., mais les mots peuvent blesser et tuer exactement pareil.
Oui, donc j'aurais pas dû lui dire...
Mais c'est pas...
Mais vous avez essayé d'avoir son accord, c'est ça que vous avez fait.
Oui, disons, oui, parce que la démarche était sincère, en fait, en toute honnêteté. Donc après,
excusez-moi, Julien, mais on va retirer le mot honnêteté. En tout égoïsme, la démarche était sincère.
Oui.
On est d'accord?
Oui. Tout à fait. Hein.
Bah oui, mais il faut, c'est important d'être réaliste et de vous rendre compte de l'erreur que vous avez faite. Bon, c'est pas grave, hein, vous en avez fait une, vous en ferez d'autres. On est humain et on fait des erreurs. Mais à un moment donné, il faut au moins être lucide sur les erreurs qu'on a faites. Bon, et puis.
Imaginez un seul instant que vous soyez follement amoureux de quelqu'un et etc. Et cette femme vient vous voir, elle vous dit, tu sais, oui, je suis vraiment bien avec toi, etc. Mais je vais aller voir 2-3 hommes, comme ça, ça me
changera un peu les idées.
Ça me changera les idées. Je vous laisse imaginer comment vous auriez ressenti la chose. Même si elle était, entre guillemets, vis-à-vis de ce qu'elle pensait d'elle-même, la plus sincère du monde.
Mais d'autant,
donc,
Julien.
Après, il ne faut pas prendre les choses personnellement non plus. Donc après, c'est
Non mais
c'est une démarche personnelle et...
Julien, encore une fois, on entend bien votre envie d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Oui. Ça, on l'entend bien. Oui. Ce qui nous gêne, c'est pas votre envie, c'est pourquoi vous avez eu besoin d'en parler à cette femme qui est votre femme, que vous aimez, que vous respectez et à qui vous avez envie de faire du bien.
Je crois que ça a été un des mauvais poncifs qui nous a été servi par même des fois des référents et des thérapeutes. On en parlait tout à l'heure du dernier siècle, on va dire très grosso modo. Hein, c'est de vouloir continuer à penser que lorsqu'on est dans une vie de couple, on a des choses qui sont personnelles. C'est pas aussi simple que ça. Être en couple, c'est déjà laisser une part de soi à l'autre. Et donc il y a une vraie nécessité à revenir à cette idée-là. Ça ne veut pas dire que chacun n'ait pas ses fantasmes ou son jardin secret, mais pour qu'un couple tienne et qu'une réalité de couple soit vraiment ce que ce mot signifie, il est évident que dans ce que l'on est, ce que l'on pense du monde, l'autre doit être obligatoirement présent. À partir du moment où il y a une scission qui arrive à ce moment-là, le couple commence à se déliter déjà.
Donc on ne peut pas tout partager. Hein.
Mais non.
Mais non, bien sûr que non.
Bien sûr que non. Moi, j'aime bien cette image de deux cercles, Julien. Vous êtes un cercle, votre femme est un cercle.
Oui.
Et le couple, c'est les deux parties du cercle qui se retrouvent.
Une zone commune.
Et toute la partie du cercle qui n'est pas recouverte par le cercle de votre femme, c'est votre jardin secret. Et vous ne pouvez pas lui raconter toute cette partie-là.
D'accord.
Vous comprenez ?
Oui, bien sûr.
Sinon, ce n'est plus un couple, c'est une symbiose. Et la symbiose est obligatoirement destructrice.
Oui. Donc il faut que je garde mon jardin secret et que et que je fasse
Julien si imaginons que elles doivent tout entendre et elles doivent tout accepter, à ce moment-là c'est plus votre femme, c'est votre esclave. Vous êtes à ce moment-là le dominant qui a ça, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Si vous la respectez en tant qu'individu, en tant que femme à part entière, vous n'avez pas à tout lui déverser.
D'accord. Et qu'est-ce que je peux me faire pour me rattraper là ?
Bah écoutez, je crois qu'il faut tout simplement trouver une astuce, lui dire, je sais pas, par exemple, bah écoute, j'ai été stupide parce qu'au fond j'avais vu un reportage sur le libertinage et je m'étais dit que ça pouvait peut-être être sympa, au fond je me rends bien compte que j'ai absolument pas envie que tu fasses l'amour avec d'autres hommes, donc j'ai pas du tout envie de faire l'amour avec d'autres femmes. Enfin, je sais pas, trouver un truc qui tient route.
Cicatriser la plaie là.
Voilà, et cicatriser la plaie, c'est en effet prendre un petit un petit superfuge, quoi.
Oui, voilà.
D'accord. Et passer le cap, est-ce que je dois le faire ou pas? Enfin, je veux dire, c'est bon, pas bien.
Alors ça, c'est votre responsabilité.
Oui, ça vous appartient. Ouais.
Mais ça n'appartient qu'à vous.
Ça n'appartient qu'à moi.
Voilà.
Ouais, c'est surtout ça qui compte.
Vous avez entendu ce qu'on vous a dit, donc vous allez, ça va mûrir et vous allez devenir responsable.
Oui, je le suis peut-être un peu trop parfois. c'est ma faiblesse, je comprends tout à fait vos conseils.
Mais j'en suis sûre. Donc tout ira bien.
Merci
Julien.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye. RMC, Lahaye, l'amour, l'été et vous, Brigitte Lahaye.
Dans un instant, nous écouterons le témoignage de Florian. Il se plaignait d'avoir un trop gros sexe. Et puis Magali, elle avouait justement qu'elle n'aimait que ça. Mais pour l'instant, commençons à répondre à la question de base. La taille du sexe influe-t-elle sur le plaisir qu'un homme va donner à une femme? La réponse, c'est avec Bruno Poncenard.
En fait, le problème, c'est que beaucoup d'hommes ont l'impression d'avoir un petit pénis parce que celui qui a la plus grosse, c'est papa. Et ça nous renvoie au petit garçon qu'on a été. Un enfant, c'est un nain, un parent, c'est un géant. Et l'enfant s'évalue par rapport au père, il se jauge. Un petit garçon, quand il se regarde et qu'il regarde son papa, il sait que lui, c'est un pénis en réduction. Et il y a une trace de ce petit garçon en nous, et ça peut nourrir un complexe.
Absolument. Et pour peu que, en effet, les premières fois, ça se passe pas tout à fait comme il veut. Pour peu que au vestiaire, il ait des copains qui aient l'air d'avoir un plus gros sexe, alors qu'on sait bien que quand c'est pas en érection, ça veut rien dire.
Il y a ce qu'on appelle le distinguo entre le moment où le pénis est mou et où il y a des érections. Il y a des hommes où le pénis va doubler simplement, et d'autres le pénis peut prendre x3, x4, x5. Donc le pénis au repos n'est pas une valeur
sûre,
fiable. Après, il y a un bon indicateur, c'est la satisfaction de la partenaire, ou du partenaire d'ailleurs.
Absolument. Alors en même temps, on peut pas dire non plus que toutes les femmes s'en foutent, c'est pas vrai. Il y a des femmes qui ont envie que le sexe soit imposant. Moi je me souviens d'une émission de télé que j'ai fait récemment avec Rocco Siffredi, où elles étaient quand même très hystériques, hein, les femmes dans le public.
Oui, alors il y a déjà 20% des femmes...
habillées.
Oui, 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 mais alors voilà, là il y a le fantasme, c'est moi qui ai gagné les gros lots en fait.
C'est ça.
Et c'est pas forcément la longueur en elle-même, mais c'est l'attribut... J'ai le numéro 1, quoi. Donc, c'est 20% des femmes, hein, qui est à peu près 1, hein, qui attribue une importance à la longueur du phallus. Et après, physiologiquement, un homme arrive à contenter une femme avec un phallus de 12, 15 centimètres. Mais c'est vrai que quand je suis une femme et que j'ai le plus bel objet, ça me rend plus belle, plus forte.
Voilà, c'est comme les diamants, quoi.
Exactement.
Plus les gros, plus...
Plus les gros, plus il y a de carats, plus...
N'est-ce pas. Florian est avec nous. Bonjour, Florian. Merci de,
oui,
de
bonjour,
réagir.
Vas-y.
Bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Bruno.
Bonjour Florian.
Alors vous êtes plutôt bien membré, hein, c'est...
Oui.
Et justement, ça peut parfois poser des problèmes, parce qu'il y a des filles qui n'ont pas voulu vous tester parce qu'elles avaient peur, c'est ça?
Oui, elles ont de l'appréhension, effectivement.
Mais parce que vous avez fait... Enfin, comment elles le savaient?
Ah, des rumeurs.
Ah.
Elles parlent beaucoup entre elles.
Donc, vous en avez fait souffrir déjà avant, alors?
Non, enfin, peu que je sache. Non, mais après, oui, une amie que j'avais eue, avec qui on a eu des rapports, qui en a parlé à un groupe d'amis que j'avais. Et du coup, quand les filles, je sortais avec une d'entre elles, ça l'a un peu coincé, elle était un peu réticente.
Elle était maligne, celle-là, elle voulait peut-être vous garder définitivement pour elle, et elle a fait courir une rumeur. Parce que quand on fait courir une rumeur, c'est pas anodin quand même, non, Bruno Poncenard?
Oui, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre pourquoi une femme va livrer son intimité ou sa relation avec vous. Hein.
Je pense que de sa part, c'était plus pour m'aider, entre guillemets, pour...
Oh bah, elle vous habillait pour l'hiver, elle a fait partir toutes les copines, vous trouvez qu'elle vous a aidé?
Florian. elle devait aimer ça, elle pensait que tout le monde aimait.
Oui, ou je pense que Brigitte a raison, elle voulait peut-être vous garder, faire peur à la concurrence. Hein. Vous l'avez revue, cette demoiselle, peut-être, non?
Oui, je l'ai revu quelques fois, oui.
Ah, Brigitte a raison.
Ah oui, j'ai jamais vu les choses sous ce...
Mais vous ne connaissez pas le côté manipulateur et malin des femmes, Florian? Il faudrait peut-être un petit peu devenir plus ouvrir les yeux, parce que franchement, ça me paraît curieux qu'une femme, surtout si vous avez refait l'amour avec elle après, elle ait dit ça juste comme ça pour dire, quoi.
C'est vrai. Bon, à l'époque, on avait 18-20 ans, donc c'est vrai que...
Oui, il y a prescription.
Depuis, j'ai ouvert les yeux, mais bon.
Mais est-ce que vraiment, parce que c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment vous pensez que votre sexe est un peu imposant et que ça peut faire peur à des femmes, ou est-ce que c'était, à l'époque, plutôt une plaisanterie de jeune fille, quoi?
À l'époque, ça devait être une plaisanterie de jeune fille. Après, il y a certaines filles qui, quand elles m'ont vu, elles ont un peu tiqué. Mais après, ça pas...
Quand elles vous ont vu, donc, nue et en érection, c'est ça?
Voilà, oui.
Mais après, c'est vrai aussi que... Quand une jeune fille n'a pas beaucoup d'expérience, on peut penser que ça peut inquiéter une jeune fille aussi. Bruno Poncenard, c'est pas
bien sûr,
c'est pas non
c'est
plus
la première
anodin.
Fois. S'imaginer bon déjà découvrir le sexe de l'homme pour une jeune fille, c'est un moment important dans sa vie. Hein. Et après, c'est essayer d'imaginer cette rencontre entre les deux sexes et puis une jeune fille qui n'a pas d'expérience, ben elle va essayer d'imaginer, elle va essayer de contrôler peut-être un peu avant une représentation imaginaire, et effectivement si vous êtes fortement membré, elle peut avoir quelques inquiétudes, mais la nature est bien faite.
Ouais.
Et puis je suppose que vous avez appris à vous en servir, et on ne demandera pas la taille, on va laisser tout le monde fantasmer.
Exactement.
Voilà. Est-ce que ça se rapproche de votre âge? Hein, on y est? On y est bientôt?
Non, on est loin. Non, j'ai bientôt 30 ans, donc non.
Alors ça va.
Ça va.
J'y étais proche, mais bon.
Merci Florian de votre témoignage, en tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Avec plaisir.
Au revoir. Magali est avec nous. Bonjour Magali.
Bonjour Brigitte, bonjour Brut.
Bonjour Magali.
Vous avez 40 ans et qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'était une idée fausse jusqu'au jour où vous avez rencontré un homme qui avait un grand pénis, c'est ça?
Ben c'est ça, voilà. Je pensais comme beaucoup de gens, je pense que c'est pas la taille qui est le plus important. Et puis jusqu'au jour où effectivement j'ai rencontré quelqu'un qui était bien équipé. Mm-hmm. Et depuis, j'ai changé d'idée. Je pense effectivement, la qualité de la relation ne se résume pas à la taille du pénis, c'est sûr. Il y a quand même beaucoup d'autres choses à côté. Mais quand même, pour avoir connu les deux, je préfère quand même un gros pénis qu'un petit. Voilà.
Absolument, mais dans votre cas, c'est tout à fait possible que cet homme que vous avez, avec qui vous êtes, qui a plutôt un pénis bien de taille intéressante, si la relation en plus est satisfaisante, s'il fait bien l'amour, vous avez le sentiment d'être rempli. Moi, je l'entends très très bien, ça.
Rempli,
je crois que...
comblé.
Oui, c'est vrai, c'est sûr.
C'est un plus, mais si ce même homme avait un pénis de, je sais pas moi, 3 cm de moins et 1 cm de moins en diamètre, je pense que vous seriez tout aussi comblée et heureuse, voyez. Mais ça nourrit la fantasmatique. Je crois que c'est ce que Bruno Poncenard vous disiez tout à l'heure, et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut entendre.
Quand même, moi je trouve qu'au niveau de la sensation, elle est quand même différente.
Bien sûr, mécaniquement. Vous avez raison, voilà. Magali. Hein. Mais ça conditionne pas forcément la qualité de l'orgasme.
Peut-être, oui. Bon, après, c'est vrai qu'il y a les sentiments, il y a tout le reste de la relation, c'est sûr. Hein.
C'est un homme que vous avez gardé ?
Non.
Donc, est-ce que vous êtes devenue une chasseuse de trophées maintenant ? Est-ce que vous êtes à la quête du Graal ?
Oui, le problème, c'est que je les trouve toutes ridicules maintenant. Mais d'un autre côté, je suis amoureuse de personne. Hein. C'est vrai que voilà, les autres relations que j'ai eues, il n'y avait pas d'affect, donc... Ouais. Ça change quand même beaucoup les choses.
Oui, parce que malheureusement, la relation sexuelle charnelle qui fonctionne à 100%, c'est pas tout le temps, quoi. C'est un homme sur, j'allais dire sur 10, mais je pense que je suis pas loin du compte, hein, si on fait le compte, quand on a eu beaucoup d'expériences sexuelles. Oui. La véritable entente sexuelle avec quelqu'un, c'est pas systématique, malheureusement, hein. Ça serait bien d'ailleurs, ça serait plus simple. Donc,
parce que là, on parle de la taille du pénis, mais il y a plein de choses, il y a l'odeur de la personne, il y a le grain de peau, il y a tellement de choses qui conditionnent une relation de qualité ou pas d'ailleurs. Moi j'entends plein de personnes me dire voilà, j'ai trouvé une belle femme ou un bel homme, mais au moment de passer à l'âge, j'ai pas aimé l'odeur ou la peau, c'était pas ça, c'était pas sensuel, c'était pas... Donc bien sûr que la taille du pénis peut rentrer en compte, mais c'est un peu comme chez les seins chez les femmes, hein. Est-ce qu'on est plus heureux quand on fait un 95D ou un 85B? Ce qui est important, c'est de prendre des données du plaisir, hein.
C'est vrai. C'est vrai.
Alors en même temps, vous l'avez dit Bruno, hein, c'est vrai que sur le plan complètement anatomique, bon, vous l'avez, vous le sentiez bien, mais on sait très bien que l'orgasme, c'est pas forcément non plus que ça, c'est aussi la manière dont ça va frapper certains endroits du vagin. Enfin, il y a plein d'éléments qui expliquent l'orgasme féminin, et s'il suffisait en effet d'avoir la bonne taille, ça serait...
Oui, je pense que l'orgasme est plus dans la tête quand même que... Enfin, c'est pas tellement la qualité de la relation physique, je pense que c'est aussi la qualité de la relation cérébrale ou amoureuse quand même, hein, pour y arriver.
Alors il y a la qualité amoureuse et puis il y a la qualité de la communication. Je pense que moi, tous les couples que je vois en thérapie agir, il y a de l'action. Bon, il y a des troubles sexuels, mais tout le monde agit. Après, ce qui est difficile, c'est de se parler. Des fois, on est gêné, on a peur de vexer, on a peur de blesser. Et je pense que quand on est vraiment dans une relation très empathique, on peut demander à son partenaire d'être caressé de telle ou telle manière, plus sensuelle, plus vigoureuse, de prendre le temps ou pas, d'avoir des préliminaires. Et je crois que moi, j'entends beaucoup de femmes qui se plaignent, par exemple, de l'absence de préliminaires, qui disent les hommes, c'est un peu droit au but, quoi. Hein, c'est 2 minutes de papouille et puis pénétration, alors qu'il y a tellement de choses qui vont conditionner la qualité. Donc, faut à même d'en parler déjà. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, je pense, hein, d'arriver à communiquer, que ce soit pendant l'acte ou même après, parler de notre relation en général, quoi.
Sur un plan purement physiologique, un vagin, ça fait 7 cm, donc normalement, la taille moyenne chez l'homme, c'est 12,7, hein, chez les Caucasiens, chez les Européens, hein, on est entre 12 et 14, donc un homme qui aurait un sexe de 10-12 cm est à même de donner du plaisir à une femme, hein, sans aucun problème. Hein. Après, il peut y avoir effectivement cette sensation d'être plus rempli, plus comblé. Est-ce que c'est une sensation qui est uniquement physique, ou est-ce qu'elle est alliée à quelque chose de psychique, une notion de fusion, de complément, de voilà, ça c'est important. Et puis après, il y a ce côté aussi, j'ai eu le plus beau trophée, quoi. Hein.
Oui, oui, sans doute qu'il y a plusieurs raisons qui font qui vont déterminer nos préférences, mais quand même au niveau physique, moi j'ai noté avec l'avancée dans l'âge et puis le fait d'avoir des enfants, les sensations quand même changent.
Bien sûr.
Et c'est vrai que l'appréhension d'un sexe plus ou moins gros, c'est différent quand on a 20 ans et quand on en a 40 et qu'on a eu des enfants aussi.
Bien sûr, il y a des changements physiologiques importants, vous avez raison.
Mais en même temps, je crois que ce qui est important aujourd'hui, Magali, c'est que c'est d'abord de chercher, puisque vous êtes actuellement célibataire, c'est plutôt de chercher un homme avec lequel vous entendez bien, et ensuite, on s'adapte à la taille. Bon, bien sûr, si vous rencontrez un homme qui a un micro-pénis, ça risquera d'être très difficile, je suis d'accord. Mais voilà, il faut plutôt être ouverte à la rencontre que de chercher absolument un détail, même si ce n'est pas complètement un détail, on est d'accord. Je crois qu'il y a à peu près 20% d'hommes qui ont un pénis un peu au-dessus de la moyenne, donc tout va bien. Hein. Il suffit juste de faire les bonnes rencontres. Voilà.
Faut faire des one-shots, 1 sur 5, vous allez avoir le gros lot.
Bon, je crois pas que ce soit mon tempérament quand même.
Je vous taquine.
Merci Magali, en tout cas, de votre témoignage.
Merci à vous.
Au revoir.
Si un jour vous cherchez la fréquence d'RMC, ayez le réflexe 3216. Toutes les fréquences d'RMC sur simple appel.
Et un petit tour du côté d'RMC.fr avec ce mail de Florence, David Kayat. Alors que pense David Kayat de cette injonction qu'on entend tous les jours, manger 5 fruits et légumes par jour? Merci de répondre. Alors, 5 fruits et légumes par jour.
Alors, écoutez, il y a une très belle étude, ça s'appelle étude EPI, 400 000 volontaires en Europe, qui a recherché justement l'impact de 5 fruits et légumes par jour. Et en fait, l'impact est minime. C'est probablement une réduction du risque de 1 à 2%, pas plus que ça. Mais ceci dit, manger des fruits et légumes, c'est très bon.
Simplement,
on a fait des surpromesses pendant des années en disant, voilà, 5 fruits. Vous rappelez le sketch de Bigard qui se réveillait en pleine nuit en disant, oh là là, j'ai oublié de manger ma 5e portion.
Ouais,
mais en fait, 5 portions, ça réduit un petit peu le risque, 1%, peut-être 2.
Mais en même temps, c'est ce que me disait un ami médecin l'autre jour. Il me disait, mais en plus, si on mange vraiment 5 fruits très sucrés, on fait peut-être pire que si on mangeait.
Et puis, il y a des pesticides quand même dans les fruits et légumes aussi, si on n'a pas la chance de pouvoir acheter bio partout. Donc, non, c'est bien, c'est mieux, c'est bon de manger des légumes. L'alimentation anti-cancer, c'est une alimentation plus riche en légumes.
C'est bon pour l'intestin en plus.
C'est
de
bon, ça
des
fait du lest, qu'on appelle des fibres, et donc les matières dangereuses qu'il y a dans l'alimentation sortent plus vite. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Le problème, c'est le temps de contact entre les trucs pas bons que vous avez mangés et la sortie par les matières fécales. Si c'est lent, que vous avez un transit très lent, c'est ce qui arrive quand on mange pas beaucoup de fibres, on a plus de risques de cancer du côlon.
Voilà, donc c'est bien de manger des fruits et des légumes. Maintenant, c'est toujours pareil, n'en faisons pas une obsession. Et comme vous dites, non, on ne va pas se réveiller la nuit pour manger sa cinquième portion.
Et ceci dit, tous les fruits et légumes n'ont pas les mêmes vertus. Par exemple, clairement, même si ce n'est pas les légumes préférés, les brocolis, c'est beaucoup plus anti-cancer, et tous les choux, d'une façon générale, que d'autres légumes.
J'ai vu que les carottes aussi, c'était très bien.
Alors, les carottes, c'est bien, sauf chez les fumeurs, parce que c'est bourré de vitamine A, et la vitamine A, ça augmente le risque de cancer du poumon chez les fumeurs.
D'accord. Donc finalement, c'est quand même assez précis aujourd'hui. On sait assez précisément comment il faut se nourrir pour justement se donner un paramètre de moins. On se retrouve dans un instant.
RMC. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Dans quelques minutes, nous entendrons le témoignage de William, dont l'ex avait choisi de faire une IVG. Mais tout de suite, écoutez ce que Christian Jamin m'avait répondu à l'une des questions tirées du chapeau de ma boîte à questions, justement.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Christian Jamin, la baisse de libido, est-ce que c'est forcément psychologique ou est-ce que ça peut dépendre des hormones?
C'est une vaste question.
Toujours la même.
Toujours la même. Je pense que les deux existent, c'est-à-dire que c'est vrai que la libido chez l'homme est très très intellectualisée, donc très psychologique. Ça, c'est chez l'homme et chez la femme. Chez l'être humain, c'est très psychologique.
Soyons clairs.
C'est clair. Mais c'est vrai aussi qu'il est indéniable que la libido ou le désir sexuel diminue avec l'âge chez l'homme et chez la femme, et que des modifications hormonales sont susceptibles d'avoir des effets dévastateurs. Donc je crois que c'est un doux mélange des deux, c'est le cas de le dire. Je dirais que la psychologie a un rôle certainement majeur, et que les hormones sont nécessaires, mais les fluctuations, les faibles variations hormonales qu'on observe entre les uns et les autres ont certainement peu d'importance. Il faut avoir des grands bouleversements pour que ça fasse quelque chose.
Oui, vous, en tant que spécialiste en endocrinologie, vous croyez à la pilule du désir qui fait un petit peu l'arlésienne depuis une dizaine d'années?
Moi, je pense que le désir, c'est quelque chose qui commence très tôt dans l'enfance. C'est tout un système éducatif. C'est quelque chose qui...
C'est la pulsion de vie, en quelque sorte.
C'est la pulsion de vie. Et je crois malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, mais je ne suis pas sûr que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a pas donné des résultats très probants. Les médicaments qui ont été développés dans ce domaine donnent des infimes variations et qui ont fait que très peu de gens acceptent de prendre quelque chose tous les jours pour une si faible amélioration. Donc c'est vraiment très, très psychologiquement dépendant.
Donc finalement, c'est quoi? C'est plutôt une éducation à aimer la vie et à apprendre à avoir du plaisir dans le fait de vivre et par tous les sens de si je puis dire aussi.
Moi je pense que il y a ce qui est très archaïque, c'est-à-dire le désir qui est créé par les odeurs, par les massages, par ça. Donc ça c'est ça existe. Mais sinon le désir, l'amour sont des choses qui passent chez l'homme, en tout cas, majoritairement par le cortex.
Et donc, ça s'entretient.
C'est la grandeur de l'homme, justement, que d'avoir quitté les stimuli archaïques pour les transformer en stimuli magnifiques qui s'appellent le désir, l'amour, etc. C'est-à-dire que, heureusement, ce n'est pas l'odeur majoritairement de la femme qui est devant nous qui nous donne des érections. C'est notre imagination, c'est notre éducation. Et vous connaissez mon dada, Brigitte, c'est que je pense que un des grands torts de notre société, c'est que on n'apprend pas à aimer, on n'apprend pas à désirer. Je dis toujours que les plus grands peintres, même s'ils ont du talent, ont appris à peindre, et je pense que même les meilleurs amants ou les meilleures maîtresses ne savent pas servir de leur pinceau.
D'accord. Merci Christian Jamin de cet éclairage. Et on retrouve William. William, vous avez envie de réagir sur le sujet du jour. Bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian.
Bonjour.
Donc vous avez 44 ans et c'est votre ex hein, qui avait subi une IVG.
Oui, c'est ça, elle a subi une IVG. Alors que je replace les choses dans leur contexte, on avait quel âge? Nous avions 22, 23 ans. Nous étions tous les deux étudiants pour devenir éducateurs et elle est tombée enceinte et elle ne souhaitait pas du tout garder cet enfant, contrairement à moi qui souhaitais le garder. Et lors d'une discussion où j'ai fini par céder, de toute façon, je n'avais pas le choix, elle était maître de son corps. Elle a fait cette interruption. Et moi, c'est pas tant l'interruption qui me... Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un qui milite pour l'IVG. C'est pas tant ça, c'est surtout le travail qui a à faire derrière pour l'homme. Parce que je pense qu'il est, entre guillemets, plus facile pour la femme de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil du bébé qu'elle perd parce qu'elle peut le matérialiser quelque part, que l'homme, lui, tout reste dans l'imaginaire et faire le deuil de quelque chose qui est imaginaire, c'est très compliqué.
Oui, et ce qui est surtout intéressant dans votre témoignage, c'est que vous aviez envie de cet enfant qui pouvait naître.
En plus, oui.
Et donc, quelque part, on vous refuse quelque chose qui était un désir fort, quoi.
D'une part, et puis d'autre part, on commence à imaginer...
Oui, à fantasmer sur ce petit être qui va venir. Oui.
Exactement.
Ce que vous dites est très intéressant parce que c'est totalement à contre-courant des idées classiques, puisque on reproche beaucoup aux hommes de ne pas avoir d'avoir les conséquences de leurs actes, en particulier de leurs actes sexuels, et que c'est la femme qui paye le lourd tribut. Et là, vous êtes en train de nous dire le contraire, et moi, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, et que une fois de plus, il faut se méfier des raccourcis et des idées toutes faites. Donc, moi, j'aime bien ce que vous dites, parce que ça prouve qu'il faut vraiment se méfier de ce que tout le monde croit ou croit savoir.
Ouais, tout à fait. C'est on croit toujours que l'homme, voilà, il est juste là pour planter une petite graine et puis ensuite terminer. Je crois que non, d'autant plus que moi, mon expérience par la suite, j'ai eu un enfant j'ai un enfant maintenant et je peux vous dire que les maladies de la femme enceinte, je les ai eues. Non, mais ce qui est vrai,
oui,
quoi.
Oui, bien sûr, vous avez.
J'ai fait des crises de spasmophilie, j'ai vomi pendant 9 mois, et du jour où il est né, mon fils, je n'ai plus rien eu de tout ça. Donc, mais le plus compliqué par rapport à l'interruption volontaire de grossesse pour un homme, c'est vraiment de, s'il n'est pas d'accord, hein, c'est vraiment de pouvoir faire le deuil du futur enfant qui aurait été susceptible d'avoir.
Voilà. Mais il me semble que quelque part, il est un petit peu encore quelque part dans votre imaginaire, hein, ce petit être qui n'a pas, qui évidemment n'a pas pu voir le jour, mais quelque part, vous l'avez encore dans une part de vous-même.
Je l'ai toujours, oui, il est toujours là quelque part, ça c'est clair, hein. Mais il est quelque part. Je ne sais où il est, le bonheur pour moi, c'est d'avoir pu rencontrer quelqu'un d'autre et puis avoir eu un enfant qui ne le remplace pas, certes, mais qui quelque part me permet quand même de pouvoir ranger cette petite tête qui aurait pu arriver et faire en sorte de pouvoir continuer à vivre, quoi, normalement.
Mais vous savez, William, je crois qu'on peut vous remercier de votre témoignage, parce que pour beaucoup d'hommes, en effet, on a l'impression que c'est assez insignifiant. Ça l'est peut-être en apparence, mais peut-être que aussi chez les hommes, ça laisse parfois des petites traces tout à fait quelque part. Voilà.
Et l'égalité homme-femme, bon, on dit souvent que l'homme est super. Considère que l'homme est supérieur à la femme, enfin c'est des on-dit, mais je pense qu'on a tendance à oublier que l'homme a souvent aussi des comportements qui font que il est pas non pas inférieur, mais il est très sensible, et cette sensibilité là on a tendance à l'oublier, et c'est un être humain, quoi, qui pense, qui au même titre que la femme a des émotions, et ces émotions là sont souvent cachées dû au fait que la société veut que l'homme soit quelqu'un de dur, de fort, de costaud, et que
on vous laisse pas beaucoup exprimer vos émotions, et donc vous avez un peu toujours l'habitude de ne pas les montrer, et à force de ne pas les montrer, on croit qu'on en a pas.
Voilà,
je fais un peu un raccourci, bien sûr.
Oui, l'homme est une femme comme les autres.
Exactement. Tout à fait.
Mais je suis bien d'accord, mais William, j'espère que vous remarquez que je prends toujours parti pour vous.
Ouais, je l'ai remarqué.
Bon, ça me rassure. Merci William, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez un amant.
Voilà, donc j'ai aussi 3 enfants, donc je vis dans une vie confortable, tout se passe bien, ça va très bien avec mon mari, mais j'ai un amant qui est plus âgé que moi, qui a 22 ans de plus que moi, et en fait ce monsieur c'était mon thérapeute au départ, et donc on est sortis ensemble au bout de 2 ans. Parce que moi, la thérapie pour moi elle était terminée, ça allait bien, et je continue à aller le voir parce que je m'entendais bien avec lui, et voilà. Et donc je lui ai avoué un jour que j'avais pas, je sais pas si c'était des sentiments, en tout cas que le transfert avait vraiment très bien fonctionné de mon côté. Voilà, mais je lui ai dit simplement, enfin je lui ai envoyé une carte, enfin voilà. Et en fait, il s'est passé que lui, elle a fait les démarches vers moi. Et donc, on est sortis ensemble pendant 1 an. Donc c'était de juillet 2013 à juillet 2014. Mm-hmm. Et en fait, sa femme a découvert a découvert la,
votre relation, oui. Mm-hmm.
Voilà. Donc en fait, donc ça s'est arrêté brusquement. Il a dit qu'il voulait retourner avec sa femme. Enfin, moi, il n'y avait aucun souci. Hein, de toute manière, j'ai jamais dit que je voulais prendre la place de sa femme et tout ça. Donc pour moi, bon, c'était clair que voilà, il fallait qu'il retourne avec sa femme. Sauf que ça s'est fait brutalement et que du jour au lendemain, c'est comme si j'étais morte. Enfin, c'était pour moi, ça a été très brutal. Alors que je me disais, quand on aime quelqu'un ou quand on a passé beaucoup de moments avec quelqu'un, on se sépare pas. Enfin, j'avais du mal à concevoir ça. Bon, bref.
Mais c'est normal, hein, puisque ça avait été en plus votre thérapeute. Quelque part, vous vous sentiez vraiment abandonnée. Hein,
Oui, en fait, c'est-à-dire que je me suis toujours dit qu'il pourrait jamais me faire de mal, vu qu'il m'avait toujours
oui,
quelqu'un.
Hein.
Donc, voilà, ça a été... Bon, après, donc, disons, ça a duré un mois et demi, cette séparation. Et puis, il est revenu vers moi en me disant qu'il pouvait plus respirer sans moi, qu'il m'aimait, qu'il voulait vivre avec moi. Mais, enfin, moi, je lui ai dit... Alors déjà, pour moi, ça a été difficile parce que pendant ce mois et demi, j'avais quand même déjà évolué aussi dans ma tête et tout ça. Et puis, j'avais déjà un petit peu... voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'était pas, on ne pouvait pas de toute manière vivre ensemble à cause de la différence d'âge, moi, à cause des enfants. Et puis, de ce changement de vie, c'était, pour moi, ce n'était pas concevable. Mais quand même, j'étais très amoureuse de lui. Donc, on s'est quand même remis ensemble en tant qu'amants. On se fréquente de nouveau. Moi, je suis très amoureuse de lui. Le problème, c'est que lui, en fait, tout ce qu'il me donne, en fait, ça, comme il me le dit, ça, il le ressent en creux dans le couple de sa femme, avec sa femme. Et donc, du coup, en fait, il culpabilise beaucoup parce que sa femme, elle le sent. Elle sent qu'il n'est pas comme d'habitude. Elle sent qu'il y a quelque chose et tout ça. Donc, en fait, lui, il culpabilise encore plus. Donc, du coup, je pense qu'il est crispé. Elle le sent encore plus, etc. Donc, en fait, pour essayer de mieux gérer la situation, il essaye de plus penser à moi quand il est avec elle. Donc, il ne m'appelle plus. Il ne m'envoie pas de messages, de textos, rien du tout. Et du coup, moi, je me sens blessée parce qu'en fait, au bout de quelques jours, il me rappelle. Et est-ce qu'on peut se voir, et du coup on couche ensemble dans son cabinet, et puis après il me laisse tomber nouveau jusqu'à qu'il ait nouveau en vie. Enfin bon, et moi je me sens blessée parce que je me dis
Marie, ce qu'il faudrait pas, c'est que le bien-être que vous avez eu grâce à cet homme dans votre thérapie, vous soyez en train de tout perdre. Et c'est un peu ce que je crains là, parce que finalement je doute un peu de ses qualités de thérapeute pour arriver à se conduire de cette manière-là avec vous. C'est un petit peu...
En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi j'y étais parce que j'ai eu un trouble panique suite à des hémorragies que j'avais fait, ça. Donc après, c'était clair pour moi que si j'étais plus avec lui, j'allais avec un autre thérapeute, et voilà. Et puis mon trouble panique, il est parti. Enfin, il n'y a pas eu de... par rapport à
mais
ça.
Mais il est quoi?
C'était
il
pas
est...
par rapport à un mal-être.
D'accord. Vraiment. Oui, c'était très opérationnel, très, finalement.
Ouais, oui.
Mais n'empêche, il est censé être thérapeute, d'après ce que vous me dites, et il a une conduite qui, sur le plan déontologique, est quand même un petit peu limite. Bon, pourquoi pas, après tout, vous avez arrêté votre thérapie, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, c'est des choses qui peuvent arriver, je suis pas là pour être choquée. Mais quand même, aujourd'hui, la manière dont il vous traite, ça tient pas. Je veux dire, il peut pas vous prendre quand il en a envie et ne pas tenir compte de ce que vous ressentez quand il n'est pas avec vous. Voyez, je veux dire, soit vous avez une vraie relation et à ce moment-là, il s'arrange pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais là, on a l'impression que la relation, elle est à sens unique. Il prend ce qu'il a envie de prendre et tant pis pour vous si vous n'êtes pas satisfaite de ça.
Alors, c'est ce que je lui ai dit. Donc, je lui ai quand même écrit... J'ai écrit comme quoi, moi j'étais, je trouve que j'ai un système qui est plus souple que le sien. Donc, je m'adapte, je comprends qu'il est... Enfin, il le gère moins bien que moi, donc je comprends, je veux bien m'adapter, mais je lui ai dit que moi, il faut quand même qu'il y ait un minimum de... Enfin, j'avais presque envie de dire, c'est juste du respect, quoi, de la considération, parce que sinon...
On peut dire ça. S'il n'y a rien qui change, s'il comprend mais qu'il ne change rien, il faut considérer qu'à ce moment-là, vous ne comptez pas suffisamment pour lui, pour qu'il ait envie de changer et de vous respecter. Je crois, Marie, vous êtes assez lucide d'ailleurs. Hein. Mais comme vous êtes encore dans l'espoir qu'il va peut-être changer, comme vous êtes encore dans la nostalgie des moments où ça se passait très très bien, vous continuez alors que sur le plan tout à fait concret de la situation actuelle, ça ne vous satisfait pas. Vous continuez en espérant que ça change ou par nostalgie du passé. Mais dans l'instant présent, ça ne vous convient pas. Donc c'est ça qu'il faut que vous arriviez à réaliser. Et je crois qu'il est temps de mettre fin à cette relation. Sinon, vous allez peut-être souffrir encore plus. Et je vois pas l'intérêt.
Quand je suis pas avec lui, parce que du coup, ça c'était déjà arrivé cette situation, donc je suis déjà partie. J'ai dit que c'était pas possible et tout ça, mais du coup après il me manque trop. Enfin, je suis amoureuse de lui, donc en fait.
Marie, bien sûr que vous êtes amoureuse de lui, mais c'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi. Et vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, il faut un peu de temps pour qu'on arrive à l'oublier, mais on est tous capables d'oublier quelqu'un. C'est pas. Alors après, moi je pourrais vous conseiller. Allez voir quelqu'un d'autre et faites une thérapie parallèlement et puis vous comprendrez mieux. Non, là je pense que vous êtes dans une sorte d'emprise et c'est toujours ennuyeux parce que quand on est dans l'emprise, on risque vraiment de perdre de l'estime de soi, de perdre du respect de soi. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde, faites attention. Vous êtes un peu dans une emprise puisque dès que vous essayez de le quitter, il arrive à vous récupérer. Enfin, c'est vraiment les indices qui laissent à penser qu'il a du pouvoir sur vous. Et c'est pas une vraie relation d'amour, c'est une relation de dominant-dominé. Je pense que c'est important que vous en preniez vraiment conscience. Et puis vous ferez bien sûr ce que vous voulez, Marie.
RMC, la haie, l'amour et vous.